RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG des grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Elina Dumont, Claire Petit, Charles Consigny et Joël Dagosséry. Voilà le carré de GG qui nous accompagne depuis 9h ce matin jusqu'à midi tout à l'heure à 11h20 dans le journal du off. Nous reviendrons sur les tensions au sein de la NUPES depuis que Jean-Luc Mélenchon a par deux fois soutenu la Chine contre la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Et tiens, ça donnera l'occasion de vous faire écouter, ou pour certains peut-être réécouter, l'ambassadeur de France en Chine, l'ambassadeur de Chine en France plutôt, pardon, qui la semaine dernière...
Mais c'est le même.
L'ambassadeur de Chine en France qui la semaine dernière disait, une fois qu'on aura réannexé Taïwan, on va rééduquer la population. Vous entendrez, voilà, la philosophie chinoise. Ce sera tout à l'heure dans le journal du off à 11h20. La sécheresse, l'eau, parlons-en. Est-ce que aujourd'hui, pour nous pousser à être plus raisonnable dans la consommation d'eau, il faut payer l'eau plus cher? François Botte, l'ancien député socialiste, en parle.
Plus on consomme, plus ça coûte cher. C'est évident que ça marche. Le tarif progressif, pour simplifier les choses, permet d'avoir des marges de tarification avec des idées d'eau essentielle, puis d'eau utile et puis d'eau de confort. C'est un élément que les gens doivent intégrer comme un élément de contrainte, mais c'est pour le bonheur de tous. Si vous voulez laver sa voiture en période de sécheresse, si on n'attaque pas un peu le porte-monnaie pour dire qu'il faut arrêter les conneries, c'est pas facile. Pardon d'être un peu vulgaire et trivial, mais je pense que ça peut être utile.
Voilà François Brotte, l'ancien député.
Jean-Paul, là, qu'on vient d'entendre.
Socialiste. Ouais. François Brotte, ancien député socialiste. Je t'en prie, mon cher Charles Consigny. Plus on utilise, plus on paye. Faut arrêter de considérer que l'eau, c'est un bien qui coule comme on veut, quand on veut, et parfois même sans qu'on fasse attention. La période dorée des enfants gâtés de l'eau, elle est terminée. En France, on a l'impression. 100 communes aujourd'hui manquent d'eau potable. Les départements ont pris des mesures de restriction. On voit bien que l'eau devient une denrée précieuse. Voici le temps des prises de conscience. Une tarification progressive de l'eau pourrait être mise en œuvre. Le premier mètre cube sera ainsi gratuit. Et ensuite, l'eau serait de plus en plus chère. Et les gens qui l'utilisent beaucoup la paieraient au prix fort. Et comme ça, on éviterait le gaspillage. Payer l'eau plus cher, est-ce que c'est une bonne idée? 32-16, RMC. Ou même, peut-être, pourquoi pas mettre en place des quotas. 32-16 pour en parler avec les GG clairs. Bah, tu es contre?
C'est pas que je suis contre, simplement la gestion de l'eau.
T'as dit hors de question.
C'est vrai, je confirme.
Mais oui, attendez.
Mais Claire a 3-4-4, elle doit laver régulièrement, je dis entre
sa piscine olympique.
Sa piscine, c'est 4-4. Tu vois, c'est...
Non, c'est propriété. Ça boit énormément.
Les chats, c'est tous les matins.
Faut pas oublier.
Non, mais c'est ça la République en marche.
Ça y est.
Toi, le matin, tu prends une douche.
À peine. Je fais du goutte à goutte et je me lave les dents en même temps.
Claire, elle fait ses longueurs d'abord.
Absolument.
Et ensuite, non, mais ça jacuzzi. Elle se lave dans son jacuzzi. Non, mais c'est quand même spécial.
Déjà, la piscine est remplie depuis 3 ans. Pas besoin de la remplir tous les jours.
Ah, mais donc elle a quand même une vraie piscine, par contre. Moi, j'ai pas de piscine. Donc, on va comparer nos bilans carbone.
Attends, on va peut-être parler d'autre chose qui est plus importante, ce qui est l'eau.
Bah, dans ta piscine,
parce
il y a de l'eau.
Parce qu'il faut quand même savoir que la gestion de l'eau est faite par diverses communes ou d'intercommunalités. Il n'y a pas un seul prix identique, même dans le même département. Donc, augmenter, c'est ça, quand je disais pour, oui, quoi ou comment, et certainement pas augmenter l'eau, il faudrait peut-être, qu'il y ait une gestion nationale de l'eau. On pourrait peut-être arriver à faire quelque chose de raisonnable, sinon tu vas avoir... Si je vois, alors si tu es avec l'eau, là où je suis, moi, mon interco de Gisors, c'est pas du tout le même prix que celle des Anglis, qui n'est pas le même prix que
et ça,
celle
c'est lié à quoi,
et pas la même gestion, parce que ce sont justement les communes qui gèrent l'eau.
Hein,
et maintenant, avec les intercommunalités, c'est ça. Ce qui fait que même dans le même département, tu peux avoir des taux différents. Donc, arriver à dire, on va augmenter le prix de... Ah ouais, mais qui... Donc il faudrait vraiment arriver, maintenant que nous avons des gros problèmes, justement, le climat change, à ce qu'il y ait véritablement un plan national sur l'eau. Arrêtez aussi que les écolos empêchent les agriculteurs de faire des réserves d'eau aussi sous prétexte qu'il ne faut pas, etc. On en arrive maintenant que les animaux ne peuvent même pas être alimentés, désaltérés, qu'ils ne peuvent plus arroser. Donc il y a toute une
nouvelle gestion de l'eau.
Tout à refaire d'une gestion de l'eau et que cette eau, pour moi, devienne nationale.
Moi, je dis déjà qu'on répare toutes les fuites. Moi qui prends beaucoup le métro, je peux vous assurer le nombre de stations. Il y a carrément de la flotte qui coule. Et j'imagine que c'est dans toute la France. Hein.
Absolument.
Ça ne doit pas être que par chez nous.
Des fuites partout.
Mais c'est vrai que j'ai lu quand même qu'il y avait 100 communes qui étaient privées d'eau potable.
Oui, mais comment ils le gèrent? Comment ils ont géré ça?
Écoutez, ça, j'en sais rien, je ne suis pas dans ces communes. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, personnellement, toutes les personnes que je fréquente, ils ne font que ça, faire attention. Pour vous dire, je l'ai déjà dit ici, moi, quand je vais chez certaines personnes, ils me disent « Surtout, Elina, tu ne tires pas la chasse d'eau !» Pour vous dire. Donc, ces gens-là, de toute façon, ils peuvent
comment
pas...
Comment ça, ils disent « Tu ne tires pas la chasse d'eau ?»
Pour économiser l'eau, parce que ça coûte cher de... l'eau.
Tirer la chasse
d'eau. Donc, déjà, si on dit « Augmenter l'eau », pour moi, ceux qui consomment beaucoup d'eau, excusez-moi, c'est ceux qui ont des piscines, c'est ceux... excuse-moi, si je le pense... C'est ceux qui ont des piscines.
Tu sais que la consommation d'eau, tu sais ce que c'est? C'est 0,1%.
Bon, alors d'accord.
De la consommation d'eau.
La piscine, tu la remplis. Elle est remplie quand tu l'achètes.
Si tu l'entretiens bien, tu la remplis.
En tout cas, il faut prendre conscience que l'eau, c'est vital. Sans eau, on va tous crever. Et que moi, par exemple, je suis désolé, mais je connais plein de gens. Le soir, on se détend, on prend un bain et tout. Eh ben non, on arrête les bains.
Non, ça va me faire.
Mais attends, faut savoir. Toi, tu veux pas qu'on augmente? Tu veux faire des bains tous les jours?
Non, je ne fais pas du tous les jours. Non, mais il y a la douche, mais de temps en temps pouvoir prendre.
Moi, d'après toutes les lectures que j'ai faites hier, il y a l'urgence là. Hein.
Oui, il y a l'urgence, mais alors évidemment là, ça a rien à voir. Mais en général, les personnes qui ont un pavillon également le récupérateur d'eau de pluie. Ce que j'aime, moi, j'en ai trois, puisque tout autour de la maison. Donc, ça me permet d'arroser les fleurs. J'aurais aimé, mais c'est pas moi qui ai fait la demande de la construction de la maison, qu'également ces tôles-là puissent servir pour la machine à laver, puissent servir aussi pour les toilettes, alors qu'à l'époque, puisque ma maison a quand même une quinzaine d'années, tout ça n'est pas fait. Mais il y a plein de choses à faire. Plein de choses. Mais récupérer aussi l'eau.
Ah, mais ça se fait de plus en plus, ça, récupérer.
L'agriculture, 45% de la consommation pour 9% des prélèvements devant le refroidissement des centrales électriques, 31% de la consommation. L'eau potable, 21% l'eau potable. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème, c'est ce qu'on disait, c'est que dans les foyers, si tu veux, tu fais la vaisselle, ou tu ouvres le robinet, et derrière, j'ai ça à faire, tu y vas, tu fais quelque chose pendant 30 secondes, et tu laisses couler le robinet
parce que tu as perdu conscience. Le refroidissement des centrales,
qui va être arrêté parce que l'eau est trop chaude.
Le refroidissement des centrales, l'eau, après, elle est rejetée dans les ruisseaux, dans les cours d'eau. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, parce qu'entre temps, elle a refroidi une centrale nucléaire. Mais elle est rejetée, donc ça n'est pas de l'eau qui est consommée. Et si on exclut ça, l'agriculture, c'est en fait 68% de la consommation d'eau.
Et
24% pour l'eau potable. Moi, je me demande s'il n'y a pas quand même quelque chose à regarder pour faire déjà une agriculture qui consomme un peu moins d'eau. Je pense qu'on peut trouver des techniques, on peut améliorer, on peut... mettre des OGM.
Il y en a plein qui doivent hurler.
Je ne sais pas, je suggère simplement. Je pense qu'on peut trouver des moyens de moins consommer d'eau. J'ai toujours trouvé, moi, ridicule les gens qui passent leurs vacances à l'autre bout de la planète. Mais je crains aider tous ces gens qui ont des tonnes de piscines et des grosses voitures et ceci,
cela.
Mais en même temps, je suis pour la liberté. Après tout, si ça leur plaît d'aller à Punta Cana à Noël, il y a une certaine poésie là-dedans qui a été abondamment documentée par Welbeck, tous ces Occidentaux complètement décérébrés qui vont faire du tourisme de masse. Pourquoi pas? Et je crains, moi, je redoute plutôt ce qu'on voit arriver comme une espèce de fascisme vert. C'est-à-dire que je pense que je vois arriver au nom oui. du... J'ai relevé d'ailleurs les tweets, je vais vous dire, j'ai relevé les tweets d'une journaliste de l'AFP qui porte le nom bien-aimé de Fillon, mais je crois qu'elle n'a pas de rapport avec l'ancien Premier ministre, qui était un homme de très grande qualité, qui a été broyé par des juges de gauche. Et, et donc cette dame, voilà, Marie Fillon, Laure Fillon, pardon. Et donc elle fait des tweets contre des commerces qui gardent leurs portes ouvertes avec la clim. On a parlé de ce sujet. Donc canicule à Paris, portes grandes ouvertes avec la clim. Hashtag sobriété énergétique. Point d'interrogation. Elle photographie des agences immobilières qui laissent certaines annonces éclairer la nuit.
Ouais, la lumière.
Voilà, donc tac tac, name and shame, parce qu'elle met bien les enseignes. Mais en même temps, elle mettait, par exemple, au mois de juin 2021. Une photo de gens en terrasse, les uns sur les autres, pas de gel en vue et la musique à fond. On n'apprend pas de nos erreurs, visiblement. Donc, manifestement, c'est une personne triste. C'est Proust oui. qui disait, on devient moral quand on est malheureux. Et je crains que cette journaliste de l'AFP soit malheureuse et je crains que le bolchevisme et la volonté d'interdire les choses à son prochain et qu'on a ressenti tellement de manière tellement véhémente pendant le Covid, eh bien je crains qu'on se le prenne avec, et tu vas voir que le pass carbone, tu vas voir que la surveillance des uns et des autres.
Est-ce que les faits ne donnent pas raison finalement
mais ça ne va rien changer. Ça ne va servir à rien. Ça ne va servir à rien.
Tous ceux qui étaient les tenants, si tu veux, d'une agriculture raisonnée, d'une utilisation raisonnée des ressources et de l'eau, aujourd'hui, finalement, les faits sont en train de leur donner raison.
Mais non, donc, parce que si on avait
être obligé
non,
de revenir,
Alain, je ne suis pas d'accord.
À tort ou à raison, une espèce de
les innovations techniques.
Mais pour notre propre survie.
Alain, les innovations technologiques, les voitures électriques.
C'est pas incompatible.
Si, c'est incompatible. Les voitures électriques, les batteries qui consomment moins, qui durent plus longtemps.
C'est très bien.
Il y a Cadillac, par exemple, cette très grande, magnifique société.
Ferrari aussi va
américaine. Vive Cadillac, vive les 4x4 Cadillac, les Cadillac Escalade. Un modèle extraordinaire. Moi, je rêve d'un Cadillac Escalade. Ils sont en train de développer une batterie nucléaire. C'est-à-dire une batterie qui va en fait s'auto-recharger, qui sera rechargeable à l'infini, qui ouvre la voie à énormément de nouvelles choses. Donc, tout ce progrès technique, on ne l'aurait pas fait avec des types en dreadlocks qui utilisent des toilettes sèches. Je suis désolé. On a besoin aussi d'une croissance économique qui nous permet d'avoir suffisamment de cash, suffisamment de scientifiques, suffisamment de dynamisme pour faire ces innovations. Et si, et tout ce qu'on va faire, on va faire comme avec le Covid. On va interdire aux gens des trucs débiles. On va les obliger à des trucs débiles. Ça ne servira à rien. Ça n'aura absolument aucun impact ni sur l'écologie, ni sur la consommation.
Et
sur
ça fait au moins déjà 3 minutes.
Ça n'aura aucun impact sur rien, mais ça fera plaisir à tous les névrosés de notre pays.
Oui.
Voilà. Voilà. C'est dit de Maître Consigny, qui fait que notre discussion continue dans un instant. Est-ce que vous êtes prêt à plus de sobriété?
De toute façon, vous n'avez rien de mieux à dire.
Et à payer l'eau plus cher au nom de notre survie.
C'est
dans
du
un
machisme,
instant.
Ça.
Pascal d'Ille-et-Vilaine, Charline qui nous appelle des Vosges. Tiens, c'est pas très loin du Jura.
Gérard, oui,
la parole aussi. À Elina Dumont, à Joël Dagosséry. À tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, notre carré de GG quatuor de grandes gueules, Elina Dumont, Joël Dagosséry, Claire Aupetit, Charles Consigny. Charles nous a fait une plaidoirie là juste avant la pause pour dire stop aux diktats écologistes. Aujourd'hui, misons plutôt sur la modernité, la recherche, le développement, on ait des nouvelles technologies qui nous permettent de consommer, de consommer moins, mais pas de police de l'eau, s'il vous plaît. Pascal est avec nous pour en discuter. Pascal, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Pascal, est-ce que vous êtes pour justement des quotas d'eau ou plus on consomme, plus on paye?
Alors, moi, de vue de ma fenêtre, je considère que l'eau est une ressource que tout le monde a droit. On connaît nos consommations. Grosso modo, moi, je vois pour un couple que nous sommes. Bon, nos factures aussi entre 80, 90, allez, les grandes années, 100 mètres cubes par an. Donc, on sait que c'est une référence. Au-delà de cette référence, qui reste à déterminer, hein, pour un couple, pour une famille de un enfant, deux enfants, trois enfants, il y a une référence à respecter. Au-delà de cette référence, moi, je partage l'idée de dire, eh ben, on surtaxe l'excédent. Moi, je suis pas contre quelqu'un qui souhaite une piscine. Moi, s'il veut une piscine, outre le fait que bah il utilise plus d'eau que d'autres et puis que on va appauvrir un petit peu cette énergie, ouais. C'est un choix que je respecte. Moi, je jalouse pas. Et auquel cas, il surpaye hors de sa consommation dite classique. Voilà. Donc moi, c'est mon point de vue. Et puis pour faire un clin d'œil à votre chroniqueuse tout à l'heure, moi aussi j'ai des réserves d'eau avec les gouttières, mais faut-il encore qu'il pleuve pour pouvoir les remplir, quoi.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, mais vous savez que certains disent on va se baser aussi sur un système de consommation. On sait que par exemple dans l'année, votre foyer vous consommez tant et au-delà. Eh bien, il y aura une surtaxe. Voyez, on fait une espèce de quota.
Oui.
Ou alors, on augmente carrément le prix de l'eau. Et si on augmente le prix de l'eau, eh bien, nous-mêmes, vous voyez, c'est comme l'essence. On augmente le prix de l'eau, eh ben, on va faire attention, on va moins consommer et du coup, moins tirer sur les ressources, Pascal.
Oui, c'est l'idée que je défends,
oui. Ouais, ça vous semble raisonnable. Alors, Joël et Lina, Joël Dagosséry.
Non, mais Pascal, il a bien de la chance de savoir exactement sa consommation. Moi, je rappelle qu'il y a beaucoup de foyers qui ne connaissent pas exactement leur consommation. L'eau est fondue dans les charges collectives. Et donc ça, c'est un premier travail à faire. Je rejoins complètement Claire sur l'opacité. Il y a une opacité en France sur les prix de l'eau. Il y a 10 000 prix différents sur 36 000 communes en France. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas.
C'est aberrant. Hein.
Voilà. Et en sachant que la plupart des foyers ne savent absolument pas ce qu'ils consomment, absolument pas ce qu'ils payent, que tout est fondu dans les charges. Donc, il faudrait déjà commencer à savoir ce qu'on paye, ce qu'on consomme, pour savoir si on a vraiment, si c'est vraiment pertinent de le payer plus cher. Parce que déjà, quand tu sais ce que tu consommes, t'as peut-être beaucoup plus tendance à faire attention à ce que tu vas laisser couler. Et puis, la plupart des foyers, enfin, en tout cas, moi, ceux dans lesquels j'ai grandi et mon environnement, c'est comme avec Elina. Je suis désolée, moi j'ai grandi avec ma mère qui avait deux bassines, c'est-à-dire une bassine où on mettait la vaisselle qui était déjà remplie d'eau et une autre bassine remplie d'eau pour rincer. Il fallait absolument pas faire couler la moindre goutte d'eau en plus. Et beaucoup de foyers continuent à
et elle avait les enfants dans la même bassine aussi.
C'est possible.
Avec les assiettes, bien sûr.
Tu faisais une assiette à môme, comme ils étaient 13 en plus, si tu veux.
Non, mais elle avait les assiettes avec les gosses.
Elle les utilisait comme des éponges. Moi j'ai arrêté cette pratique et elle m'engueule à chaque fois. Mais on se lavait avec le seau, on remplissait un seau d'eau et il fallait pas se rincer avec plus qu'il y avait dans le seau d'eau.
Mais ça veut dire, Pascal, vous êtes quand même tenant aujourd'hui de cette nouvelle philosophie de dire on arrête de faire d'être les enfants gâtés de l'eau, quoi, en fait. C'est ça, Pascal?
La transparence,
bon,
d'abord.
Quelque part, si vous voulez. Bon, on a tous besoin d'utiliser de l'eau. Bon, moi-même, je prends une douche le matin. Maintenant, je vois bien quand j'ai les petits enfants, les ados qui viennent à la maison. Parfois, c'est une douche le matin, c'est une douche après manger, et puis parfois, c'est une douche le soir. Je me dis,
non, ça, ils ont des tocs là. Vous savez, l'obsession de la propreté, ça peut être un trouble obsessionnel. Il faut s'inquiéter. Trois douches par jour.
Et Charles, ce n'est pas qu'une question de propreté, c'est presque un réflexe de rafraîchissement. On va dire comme ça, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, on utilise 80 litres ou 100 litres d'eau à mal escient. Si vous voulez, c'est même plus une question de propreté. Je vois par exemple, il y a 15 jours, j'étais dans un camping. J'ai passé une semaine avec mes petits-enfants pour leur faire plaisir dans un camping. Oui. Vous n'imaginez pas. Parce que c'est compris dans les charges, le nombre de et de choses qui sont utilisées.
La civilité, ça existe.
Oui, mais
regardez quand même, il y a eu des progrès énormes. Le lave-vaisselle, maintenant vous avez un lave-vaisselle avec économie d'eau.
Et enfin, tout le monde n'a pas un lave-vaisselle.
Oui, quand on a un, maintenant tu consommes beaucoup moins d'eau que quand tu fais toi-même ta vaisselle. Ouais. Un lave-vaisselle te consomme beaucoup moins que ta propre vaisselle au robinet. Le lave-linge aussi, tu ne mets pratiquement plus d'eau. Moi, ça, je dois dire que ça me gêne un petit peu de plus voir de mousse, on ne voit plus le savon.
Parce qu'avant, Claire, elle regardait son...
J'aimais bien. J'aimais bien voir le savon tourner,
bien sûr, t'as raison.
Bah oui, le hublot, j'aime bien voir ce qui est juste.
C'est très satisfaisant, les tâches ménagères.
C'est pour dire que
la technologie avance
énormément et l'économie d'eau, nous le faisons pratiquement involontairement quand on achète ce genre de machine.
Merci d'avoir été avec nous.
Même si je suis pas un ballon, j'ai envie de rebondir sur Charles et sur toi, Joël. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien sûr qu'avec la technologie, les choses vont avancer. Mais là, on est dans l'urgence. Par exemple, la semaine dernière, j'entendais des restaurateurs, pour faire des économies d'eau, ils sont quand même passés aux toilettes sèches. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une urgence. Ça veut dire que les gens... Et je voulais te dire, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis... Parce qu'en ce moment, les gens, ils galèrent. Hein. Même les gens qui travaillent. Je peux t'assurer qu'ils regardent leurs factures.
Hein. Non, mais la facture...
La facture d'eau.
Ouais, mais des fois, c'est pas complètement... Moi, j'ai travaillé dans un logement social. Et parfois, c'est pas complètement bien indiqué.
Logement social, c'est bien indiqué.
Il y en a certains, mais
parfois... Il y a marqué eau froide, eau chaude.
Oui, eau froide, eau chaude, mais c'est fond sur les charges. Tu les prends en charge globale, puis à la fin, tu fais une régule de charge, tu augmentes ou tu baisses, et c'est tout. Mais savoir exactement ce que tu payes, combien ça te coûte, etc., tu sais pas. Et en plus, ça change en fonction des communes. Ça, c'est pas normal.
Alors, on va en parler avec eux, et je remercie encore Pascal d'avoir été avec nous. Charline, bonjour.
Bonjour
Charline, plus on consomme, plus on paye, mais surtout, augmenter le prix de l'eau, parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça, plus vous consommez d'eau, de toute façon à la fin vous vous retrouvez dans votre facture. Mais c'est surtout rendre l'eau plus chère, c'est surtout ça aujourd'hui qu'il faut faire, Charline. Qu'en dites-vous, mettre des quotas?
Non, moi je suis totalement contre, parce que je suis commerçante à mon compte en tant que coiffeuse. Comment voulez-vous que je sache exactement ma consommation, sachant que d'une année à l'autre, c'est jamais stable, en fonction forcément de la clientèle? Non, je fais déjà assez attention comme ça. Je garde l'eau souvent parce que j'ai la chaudière qui est loin. Justement, je vais déjà faire changer ça. Je vais déjà remettre un ballon, donc déjà un machin, pour économiser justement de l'eau. Je garde l'eau pour laver les bigoudis. Je garde l'eau pour arroser mes fleurs. Encore, toujours se priver. On a déjà eu la privation sur l'essence, sur l'augmentation surtout. Pourquoi tout le temps tirer? Nous, en tant que commerçants, je pense qu'on trinque dans tout. On est les dindons de la farce. On arrive à un moment, stop, on pète un plomb, quoi.
Non, mais si vous voulez, en tant que commerçant, vous auriez peut-être, voyez, un forfait ou un tarif, comme on dit, un tarif professionnel, ce que vous avez peut-être déjà d'ailleurs. Et puis derrière, on ferait une régulation, voyez, sur l'eau,
non,
Charline.
Je pense qu'il y en a, quoi. Nous, certaines personnes se privent, font attention, d'autres ne font pas attention. Faut trouver un juste milieu, mais c'est pas tout le monde de trinquer pour ceux qui ne font pas attention. Faut mettre des bacs.
Aujourd'hui, par exemple,
les trois quarts moments. Pas des gens.
Qui ne fait pas attention aujourd'hui, Charline? Qui vous pointez du doigt, par exemple?
Ne me dites pas, les récupérateurs d'eau, vous en voyez beaucoup dans les villes. Je suis sûre que presque la moitié des gens n'en ont pas.
C'est plus dans les campagnes, oui, c'est vrai.
Dans les campagnes, nous,
ouais, dans les campagnes, ça tout le monde en
a. Donc déjà, qu'on commence déjà par ça, qu'on commence à mettre des quotas d'eau, oui, pourquoi prendre une douche une demi-heure? Il y en a qui prennent des douches pendant une demi-heure. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, comme je dis, voilà, j'ai la chaudière qui est loin. Je me mets dans une bassine à chaque fois le matin et en début d'après-midi. Je me mets dans une bassine.
Oui, mais alors la personne qui prend une douche une demi-heure aujourd'hui, puisque vous êtes en train de la montrer du doigt, bon, je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui prend une douche pendant une demi-heure.
Ah, ça doit exister.
On peut rester dans son bain pendant une demi-heure, mais faire couler l'eau pendant une demi-heure, ça me paraît beaucoup. Mais enfin, pourquoi pas? Comment vous faites alors à ce moment-là, Charline, pour la repérer, pour la trouver?
Comme Pascal disait avant, ils voient les consommations d'eau, ils savent à peu près ce que consomme une personne. Voilà, regardez ceux qui ont des grosses consommations d'eau en fonction du nombre de personnes.
Ah oui.
On sait à peu près la
Mais c'est intéressant parce que si tu vois, aujourd'hui, on en est à se dire quel foyer.
On va faire des courriers dans son immeuble.
Il est tout seul. L'autre en face, la personne en face, elle est avec une famille. Mais on va regarder la consommation de Charles Consigny. On va le surtaxer parce qu'on va dire, comme il est tout seul, eh bien, voilà, il est pas raisonnable, donc on va lui mettre une surtaxe de l'eau, quoi. Tu vois, on va faire une police par immeuble en fonction de qui vit, quand tu as quelqu'un que tu héberges
pendant 15 jours ou 3 semaines. Attention, là, nous étions tout seuls là.
Mais il y en a des gens, moi je vois, je me lave la douche, je coupe l'eau pour me savonner. Il y en a qui laissent couler l'eau. C'est des petits détails qui font que ça fait beaucoup.
Ah oui, mais ils payent leurs factures en conséquence de leur consommation.
À la fin, ils payent de toute façon, Charline.
Ils payent, hein, c'est pas grave.
Mais ça, c'est déjà
ils n'ont pas la même note que vous, hein, c'est tout.
Oui, on les assomme encore un peu plus, eux.
On les assommer encore un peu plus, dis-je.
Bah oui, c'est ça. Eux, ils ont mieux que moi. Hein. Eux, ils prennent du... Ça va, quoi.
On va arriver dans une société de
surveillance des uns, des autres.
Ils ont des revenus aussi.
Ça va, on paye. De toute façon, à partir du moment où on paye. Voilà. Et quand tu n'as plus, tu fais attention.
Sachant qu'il y a déjà un tarif social de l'eau qui existe, de toutes les manières.
Bien sûr, on n'a déjà plus le droit de faire de coupure. Avant, il y avait des coupures. Maintenant, il n'y a plus le droit de faire de coupures. Enfin, il y a tout. Arrêtons de cette surveillance systématiquement et tout. On peut être conscient de toute façon.
La personne. Charline, on va continuer la discussion. Charline, dans les Vosges, on va continuer la discussion avec Olivier qui nous appelle du Var, où on souffre dans le Var au niveau de la sécheresse. Bonjour, Olivier.
Bonjour, les grandes gueules.
Qu'est-ce que vous en dites, Olivier? Est-ce qu'il faut rendre le coût de l'eau plus cher, alors, pour faire des économies ou mettre des quotas?
Moi, déjà, je voudrais taper sur les communes. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, je suis parti en type journée plein.
Oui.
Sur tout le long de la route, il y avait les arrosages automatiques. Et ça coule de partout. Vous allez dans le département du Var, à la Garde, la Valette, c'est la même chose. Toulon, c'est la même chose. Déjà, avant de taper encore sur les Français, il faudrait déjà taper sur les communes. Parce que les communes ne respectent pas déjà ça. Je peux vous dire que l'herbe au golfe de Mougins, elle est bien verte. Il n'y a pas de problème.
Elle a jauni quand même.
Les golfs n'ont plus le droit en ce moment.
Les golfs, ils ont été restreints. Ils ont des quotas d'arrosage, notamment là sur ce qu'on appelle surtout, je pense que c'est sur le green. Et la filière golf a demandé justement à ce qu'ils puissent bénéficier d'une dérogation, mais de pouvoir quand même continuer d'arroser, parce qu'ils disent on est aussi une filière qui est une filière économique, et pendant l'été c'est une filière touristique. Donc si tu veux, si nous demain nos golfs sont dégradés déjà et que personne ne vient, on mettra du monde au chômage, et puis ce sera de l'argent qui rentrera, qui sera en moins dans les caisses de l'État et dans l'activité touristique, quoi, Olivier.
Ouais, mais après, je suis d'accord avec vous. Mais après, le golf en lui-même, c'est un sport de riches.
Donc, oui, c'est les plus aisés, en donné, principe, c'est vrai.
Il y a aussi des choix. C'est soit on fait du golf, ou alors on boit. Moi, personnellement, je préfère mieux boire.
Donc, vous êtes contre l'augmentation des prix, ou alors on cible.
Oui,
on cible que les gros utilisateurs, quoi, en fait.
On cible surtout déjà les communes qui ne respectent déjà pas ça.
Non, mais Olivier. Je voulais vous dire, pour vous compléter ce que vous dites, vous parlez des communes, mais il y a combien de métropoles où les fontaines, elles coulent jour et nuit, hein?
Non, là, il y en a beaucoup, elles ont été arrêtées, justement, les fontaines.
Bon, il y en a encore qui coulent.
Hein. Et il y en a d'autres aussi, c'est un circuit fermé. Hein.
Moi, je vais vous dire, au Pradé, c'est très simple. Les deux, trois fontaines qu'il y a, elles ne coulent plus. Et sur toutes les plages, ils ont arrêté toutes les douches. Ça, c'est c'est l'Amérique qui a décidé ça. Mmh. Mais vous allez sur Cannes ou sur Antibes, moi je me balade souvent là-bas, les douches, elles fonctionnent toujours.
Alors, il y a des plages qui ont mis en place ce qu'on appelle des douches façon bruine, vous voyez, ou des douches en goutte à goutte, où vous ne pouvez pas ouvrir, comme on dit, la douche à fond, hein, mon cher Olivier. Donc, vous avez raison, il y a des efforts à faire, mais il y a déjà des plages qui ont changé leur manière d'être et leur manière de faire, Olivier.
Ah oui, ça je suis peut-être d'accord avec vous, mais comme je vous dis, moi ce matin je suis allé à Antibes.
Oui.
À Antibes c'était trempé. Donc pour quelle raison? Mais il faut que ça soit beau pour les touristes. Si c'est vert, c'est plus joli que si c'est marron ou orange.
Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Olivier, merci d'avoir été avec nous. L'eau, on a posé la question. Est-ce qu'il faut rendre l'eau plus chère? On va voir ce que vous en dites sur les réseaux sociaux. C'est quand même un non à 86%. Pas touche à l'eau, pas touche au tarif de l'eau. Donc, ce qui te satisfait plutôt, ma chère Claire, c'est le résultat de cette consultation.
Ils sont très bien, nos auditeurs.
Dans un instant, les GG 2022, le journal du off, on va revenir sur Jean-Luc Mélenchon, qui a créé la polémique au sein de la NUPES, au sein de la gauche, avec son soutien, notamment plutôt son soutien, oui, à la Chine. Il a critiqué la provocation des Américains avec la visite d'Nancy Pelosi. Il a reçu d'ailleurs les remerciements de l'ambassade de Chine, Jean-Luc Mélenchon.
Ouais, ça c'est pas un bon signe.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Claire Petit, Charles Consigny, nous sommes avec Elina Dumont et avec Joël Dagosséry. Vous avez raté le début des grandes gueules, aujourd'hui vous ne pouvez pas suivre les grandes gueules, ça peut arriver, c'est les vacances, vous avez raison, vous pouvez prendre un peu de temps, mais vous avez les podcasts à votre disposition aussi via l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Tout à l'heure à 11h, on reparlera de cette proposition d'Éric Ciotti sur son compte Twitter qui veut permettre une proposition de loi qui permettrait aux autorités françaises d'instaurer la double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers et permettre aussi l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il faut prendre cette mesure? On a une team oui, une team non, et vous venez en parler avec les GG, avec les grandes gueules. En attendant, on y va pour les GG 2022, le journal du off et le quiz des GG. Dans le journal du Off, il faut revenir sur ce qui se passe au sein de la NUPES. Ça date de la fin de semaine dernière. On est en pleine tension entre Pékin et Taipei depuis la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Et le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a considéré dans deux billets blogs successifs, à la fois jeudi et samedi, que la visite de la présidente de la Chambre des représentants constituait une provocation, alors qu'il n'y a qu'une seule Chine, ça c'est une doctrine internationale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule Chine, qui siège parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et que Taïwan est donc une composante à part et entière, à part entière, de la Chine. Donc, au sein même de la NUPES, il y a eu quelques voix dissonantes, discordantes, notamment via les réseaux sociaux, via Twitter. On a par exemple Julien Bayou qui a dénoncé un vrai cynisme de Jean-Luc Mélenchon, dont la vision en matière de géopolitique apparaît assez datée. Quant au patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, il dit que bon, si l'opportunité de visite de Madame Pelosi est discutable, la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie, elle, ne l'est pas. Donc l'anti-impérialisme de Jean-Luc Mélenchon, l'anti-impérialisme américain prend le dessus. David Cormand aussi, qui dit la Chine est une dictature, les Taïwanais sont libres de disposer d'eux-mêmes. Donc on voit bien que la sortie de Monsieur Mélenchon, il s'est pas fait que des amis. Qu'est-ce que vous en pensez, Joël Dagosséry?
Oh non, mais lui va devenir comme le tonton là, à Noël, que t'as invité et qui te fout la honte, qui te fout la honte. Et je crois que il a un problème, Jean-Luc Mélenchon, c'est que il est parti en préparant sa succession entre guillemets. Il a créé quelque chose de, on va dire, de positif parce qu'il a rassemblé la gauche, voilà. Et puis il a décidé de pas se représenter et d'être un peu en dehors du game. Et puis en même temps, là, il vient régulièrement venir faire des interventions qui gênent sa créature. Donc c'est dommage, hein, c'est dommage. Et puis surtout pour parler de la Chine, enfin. Moi, je reste toujours méfiante de la Chine, de sa volonté. Elle a qu'une volonté, hein, c'est de remplacer les États-Unis et de devenir la première puissance mondiale. Et quand tu vois le régime que c'est, t'as pas envie qu'un tel pays devienne hégémonique. Donc, il faudrait quand même qu'il réfléchisse un peu à qui il soutient. Et puis voilà, la NUPES a bien raison de se désolidariser de ses propos. Hein.
Charles?
Non, Claire, je suis d'accord avec ce qu'a dit Joël. Je pense que la visite de Pelosi, moi, je trouvais que c'était une initiative courageuse.
Personnelle, hein.
Mais je trouve qu'il faut arrêter de s'écraser devant les dictatures du monde entier. Je comprends pas cette tendance des démocraties, sous couvert de réel politique, de ne pas prendre de risques, de ceci, cela. On assume plus du tout le fait qu'on estime que notre régime démocratique est quand même préférable à toutes ces dictatures et que donc on soutient les régimes démocratiques dans le monde. Et Taïwan est une démocratie, donc les États-Unis soutiennent leur allié Taïwan. Et je trouve ça très bien que Pelosi ait accompli cet acte qui a été qualifié par certains observateurs de provocation. Mais c'est des observateurs qui expliquent toujours qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut jamais intervenir nulle part, qu'il ne faut jamais montrer les dents, qu'il faut tout le temps en fait s'écraser parce qu'il y aurait des forces qui nous dépassent.
De consensus autour de la Chine, d'une seule Chine avec une autonomie, mais Taïwan, c'est reconnu maintenant depuis 50 ans.
Oui, bah,
Jean-Luc Mélenchon, il se réfère simplement à un consensus international. Voilà ce qu'il dit. Quoi.
Mélenchon, il est aveuglé par sa haine des États-Unis. Qui est en fait sa haine du libéralisme, qui est son communisme en réalité. Mélenchon, il est fan de Maduro, de Chavez et de Xi Jinping. Tant pis pour lui.
Ah bah, tiens, je vous propose d'écouter l'ambassadeur de Chine en France.
C'est ça que
voilà. Et écoutez-le, c'était avec moi la semaine dernière sur BFM TV, non, BFM Story, tous les jours à 16h30.
Quand un jour la Chine a reprendre ou bien réunifier Taïwan à la patrie avec l'éducation, la population de Taïwan redeviendra patriote.
Avec c'est ça. Avec on vous met dans des camps, oui. on fait lavage chose. De cerveau et c'est parti. Mais justement, Mélenchon, de toute façon, c'est son vrai visage. C'est-à-dire que Mélenchon a vraiment. Il aime, c'est même plus pas qu'il aime, c'est qu'il adopte complètement tous ces pays qui sont dictateur, et s'il lui devenait malheureusement président de la République, je l'ai toujours dit. Ça, toutes les personnes qui me connaissent savent que je l'ai dit, Mélenchon me fait plus peur que tout autre parti, parce qu'il ferait exactement la même chose. C'est-à-dire, vous êtes de droite, vous n'êtes pas bon, allez hop, en rééducation. Vous pouvez, les manifestations avec Mélenchon, il sera là, on n'en aurait pas. Mélenchon, c'est la démocratie. Là où il vit, mais lui, s'il devait,
les manifs sous Macron, Claire, excuse-moi, c'était pas brillant non plus.
Et si on regarde, exactement ce qui est et l'obsession de Mélenchon, c'est ça. Il est attiré que par ces pays-là. Et là, il est sincère quand il dit, il veut exister.
Mais en même temps,
c'est
ce qu'il a fait.
Heureusement que la gauche, et que les Verts se réveillent.
Et tu penses quoi de Macron qui reçoit Ben Salman à dîner à l'Élysée, par exemple?
Ah ben oui, mais ça, c'est le propre des pays, c'est de pouvoir parler avec
mais
tout le monde.
Attends, il faut. Oui, mais il y a parlé.
Ça s'appelle les relations.
Tu peux parler sans recevoir avec tous les honneurs. Il y a des degrés dans le dialogue. Je suis désolé, moi je condamne ce que dit Mélenchon sur la Chine, mais est-ce que Macron balaye devant sa porte? Qu'est-ce que tu penses, Claire, du fait que Macron reçoive à dîner Mohamed Ben Salman à l'Élysée?
Je vais être sincère, ça m'a choqué.
Ah bah voilà. Donc les Macron
ne
sont pas exempts de critiques.
Par rapport à tout ce que vous avez dit, je voulais dire que en fait, même Fabien Roussel, il n'aurait jamais sorti un truc comme ça.
Sur la Chine.
Il a la même chose, il a précisé qu'il était d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas choqué et qui trouvait ça sain qu'au sein de la gauche, chacun ait son avis différent.
C'est les écologistes qui réagissent beaucoup plus fort, qui ont vraiment, eux, tapé dessus, alors que les communistes, non.
Et l'ambassade de Chine a remercié Jean-Luc Mélenchon pour son soutien et cette reconnaissance de la provocation de Madame Pelosi.
Très attention.
Taipei, quoi, si tu veux. Bon, allez, on y va pour le quiz des GG maintenant.
En direct du plateau 208 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Avec notre coproducteur Paul Lassène. Bonjour, monsieur Paul.
Salut à tous. Je vais vous parler de vacances, moi, pour essayer de détendre l'atmosphère.
J'aurais dû mettre
ma chemise de vendredi, ma chemise à fleurs. Vous l'avez peut-être vécu ou entendu ce week-end, mais samedi, on a connu un record d'embouteillage sur les routes. Plus de 1000 km de bouchons cumulés samedi. Les Français sont en vacances, visiblement.
Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence.
Joël qui chante. Bravo. Du coup, c'est Dorothée. Club Dorothée. Oui, t'étais déjà trop vieux à l'époque du Club Dorothée, Alain. Du coup, ce matin, petit test. À votre avis, les grandes gueules, quelles ont été les destinations préférées des Français au mois de juillet?
La Normandie.
La Bretagne.
Je parle point de vue monde.
En Europe.
Joël a trouvé la bonne réponse.
C'est toujours l'Espagne.
L'Espagne.
La première destination.
Pourtant, la bouffe est dégueulasse en Espagne.
Oh, les tapas.
Faut dire les choses comme elles sont.
Les tapas, c'est pas mal.
Non, je dis ça exprès pour susciter des réactions hostiles. J'adore l'Espagne, j'adore les tomates, l'huile d'olive. Et vu qu'il n'y a pas grand chose d'autre, j'adore au moins ça. Voilà.
En deuxième position, à votre avis?
La Grèce.
Absolument.
Alors que la bouffe grecque est dégueulasse aussi.
Non, c'est faux.
Non. Ah, mais c'est toujours la même chose.
Oui, c'est
De la feta sans goût.
Oui.
C'est pas parce qu'il y a tant la même chose que c'est pas bon. Il y a la bouffe française, la bouffe italienne, la bouffe marocaine. Tout le reste est
dégueulasse. La Grèce, quand même. Faut dire ça tourne en rond. Mais.
Faut dire ce qu'il y a. Moi, j'étais en Italie. La cuisine était délicieuse.
Moi, j'adore en Autriche. Je suis désolée, t'as des
marques. En Autriche.
Les pommes de terre.
Mais il n'y a que toi, Claire.
Tu prends des kilos, mais qu'est-ce que tu manges bien en Autriche?
Je pense à la bouffe autrichienne.
Mais tu pars en vacances en Autriche.
Mais non, parce que tu manges drôlement bien en Autriche.
Non, les saucisses de Francfort, c'est bon.
Il y a la nourriture japonaise aussi.
Non, dégueulasse.
Non, je parle pas des sushis.
Rien à bouffer. Non, non, c'est pas bon.
Donc, en 1, Espagne. En 2, Grèce.
En 3,
Italie.
Non, vous avez un peu donné la réponse au début. Non, c'est la France métropolitaine. Voilà. Ensuite,
ils nous demandent de trouver des pays étrangers. C'est la France, la bonne réponse. Ah oui, d'accord. Non,
Ils sont troisième. Les régions Dordogne, Vaucluse, Ardèche et Drôme en tête. Et suivent, du coup, la Tunisie, le Maroc, la République dominicaine. Un peu des endroits où on trouve des all-inclusive.
voilà.
Ouais, des choses avec des buffets,
où on gaspille, où on laisse ensuite.
Ouais.
Tu commences à manger, puis tu dis non, j'aime pas, puis tu laisses de côté une grosse assiette, tu vas t'en chercher une autre, tu prends avec 5 desserts.
Des cornes d'abondance de fruits en général.
Tu fais juste une cuillère par dessert, et puis tu laisses tout ensuite. Dans un pays où les gens crèvent de faim juste derrière et vont faire des poubelles.
Beaucoup de monde, ça revient souvent moins cher de partir en vacances.
En all-inclusive.
En all-inclusive. Justement. Vous parliez de politique juste avant que je vous rejoigne. Un institut de sondage a mené une vaste étude pour connaître les habitudes estivales des Français, mais selon leur affinité politique. À votre avis, quelle famille politique part le plus en vacances?
La droite.
La droite.
La droite.
Voilà.
Bah,
les centristes. La droite.
Et
75% de cette partie de la population part en vacances. A contrario, quel camp politique part le moins en vacances?
RN. Les écologies.
Bonne réponse de Charles, ce sont les partisans de Marine Le Pen qui partent le moins.
C'est tous des pauvres.
Et, et à l'extrême gauche, il y a
non,
un
ils
n'aiment
pas les étrangers, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils vont aller foutre ailleurs?
Mais non, c'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas
ils
les...
Ils vont aller foutre ailleurs.
Ils n'ont pas les moyens. Mais non, ils n'ont pas les moyens.
Ouais, c'est ça.
Et à l'extrême gauche, on note que ce sont les jeunes électeurs de l'extrême gauche qui partent le plus que les anciens qui sont souvent
en manque de moyens. Et après, ils gonflent avec l'écologie. C'est les mêmes. Hein.
Mais ils font de l'écotourisme.
Oui, ils peuvent partir en car ou.
Ouais, puis les jeunes, il y en a plein, ils prennent la Zidane.
Ils prennent les vacances low cost, où tu dois partir 7 heures avant
en auberge de
bus pour arriver à l'aéroport, où en plus après tu pars dans un vol inconfortable et on perd tes bagages. Et donc t'as la moitié des vacances qui sont foutues. Exactement.
Voilà.
Et après ils viennent t'engueuler en disant que toi tu pars en vacances, tu payes cher, etc. Oui, on paye cher, on a les moyens nous.
Je me désolidarise
complètement,
totalement des propos d'Alain Marchal. Alors là.
Ensuite, je continue avec ce sondage. Où partent ces groupes politiques, à votre avis, si je vous demande la gauche, par exemple?
Où est-ce qu'elle, en Espagne, elle part la gauche.
Non, en Bretagne.
En France.
Alors, je vous donne la réponse
dans
la
gauche. Campings.
Non. Alors, les campings, c'est l'électorat de Marine Le Pen principalement. Niveau de la gauche, on part plutôt chez des amis, avec des amis ou en famille.
Bah, évidemment,
c'est la
solidarité.
Ils vont crocher des autres.
C'est la solidarité.
Ils vont chez leurs copains qui ont un peu plus de pognon.
Et visiblement,
c'est ça la gauche.
Visiblement, selon ce sondage, des copains de droite.
Non, mais il y a gauche et gauche. Il y a la gauche bobo. Il y a le.
Mais c'est très intéressant. Ils vont chez des copains de droite.
Ben oui, puisque.
Donc c'est toujours la droite qui bosse pour faire la gauche.
Je termine, parce que les gens de droite et du centre sont ceux qui ont le plus de résidences secondaires.
Bah oui,
forcément
ils ont bossé pour les acheter.
Mais c'est le vivre ensemble.
On a des gens de gauche qui fument des pètes dans leur canapé, qui s'étonnent après de ne pas avoir de résidence secondaire. Bah bien
sûr.
Je veux
dire qu'ils devraient réinvestir l'argent du cannabis dans une résidence secondaire.
Ils devraient se secouer les puces.
Bah moi je trouve ça bien que la droite soit partageuse.
Bah ouais.
On n'a pas le choix, ils s'incrustent. Ils arrivent, toi t'es là, tu te réveilles, ils sonnent, ils sont là. Ah ben coucou, on vient passer des vacances.
Exactement.
À noter que
comme la droite est généreuse.
À noter que ce sont les électeurs d'Emmanuel Macron qui ont le plus de résidences secondaires.
Bah, tu m'étonnes.
C'est des cadres supérieurs chez nous.
Voilà.
Et la petite bourgeoisie qui boit du champagne.
Merci, monsieur Paul Lasserre, de ce quiz vacances.
Merci.
Et on notera.
Je reviens demain.
Ce qui nous a dit Claire Petit, que la nourriture autrichienne était délicieuse.
Oui, elle est bonne.
Elle tient au corps.
Elle tient au corps.
On va chercher s'il y a un restaurant autrichien. Ouais, on va
regarder. Quoi, il faudra essayer de trouver les spécialités autrichiennes. Que va-t-il se passer dans la dernière heure des Grandes Gueules? Nous serons avec l'hydrologue Emma Aziza tout à l'heure pour voir si on a vraiment. Elle a tous les chiffres, toutes les courbes des zones de France, des départements français, des communes où il n'y aura bientôt plus d'eau au 25 août, paraît-il, en Haute-Corse. Et puis, dans un instant, on va débattre dans le GG 7 et match de la proposition d'Éric Ciotti qui veut une proposition de loi pour instaurer la double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers, l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. Allez, on va en débattre. À tout de suite avec les Grandes Gueules au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.